Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Cette semaine, nous nous installons confortablement au pays de l'enfance. Et pourquoi ne pas commencer l'émission par une merveilleuse petite fabulette d'Anne Sylvestre ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai été nourri petit, notamment à la maternelle, par les fabulettes d'Anne Sylvestre. Ça m'est resté dans le crâne. Tenez, on écoute tout de suite « J'ai froid aux doigts ».
J'ai froid aux doigts, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai plus que ça, j'en ai bien autant que toi, j'en ai six, j'en ai là, j'en ai cinq à la fois, cinq à gauche et cinq à droite, ça fait deux mains qui sont froides, mais comment les réchauffer? Il faut taper, il faut taper. C'est bien aussi quand on souffle, mais encore mieux les moufles. Sauf que mon pouce est fâché d'être tout seul de son côté. Aussi quand je serai grand, moi je mettrai des gants. J'aurai plus froid aux doigts, ni aux deux, ni aux trois, ni aux cinq à la fois. Deux fois cinq, dix doigts.
Ah, les fabulettes d'Anne Sylvestre. C'est que tout le monde aime Anne Sylvestre. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous déclarez qu'il n'aimait pas Anne Sylvestre? Ça ne se peut pas. C'est qu'en 60 ans de carrière, notre grande chanteuse a composé plus de 300 chansons. Enfin, je veux dire des chansons pour adultes. Et autant de fabulettes. Mais les fabulettes, elle a toujours refusé de les chanter sur scène. Et d'ailleurs, si vous voulez rester copain avec elle, je vous conseille vivement de ne pas trop lui parler des fabulettes, qui lui collent au front comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mais pour moi, l'enfance, vous vous en doutez bien, c'était avant tout le piano. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette première enfantine à mon instrument préféré. Tenez, commençons donc par Mendelssohn. Notre compositeur romantique écrit un recueil de pièces pour enfants en Angleterre en 1842, quelques années après les scènes d'enfants de son ami Schumann. Alors l'enfant, selon Mendelssohn, eh bien il va très bien. Après tout, Mendelssohn a comme prénom Félix. Félix, ça veut dire heureux. Les enfants, chez Mendelssohn, sont parfaitement heureux. Ils jouent, ils s'amusent, ils sont pleins d'insouciance, de gaieté turbulente, avec bien sûr parfois quelques tristesses passagères bien vite oubliées.
Thank you.
Nous écoutions les pièces pour enfants de Félix Mendelssohn, délicatement interprétées par le jeune pianiste Wolfram Schmidt-Leonhardi. Et nous passons maintenant du côté de la Russie. C'est que l'enfance est une vieille tradition chez les Russes. Tenez, Tchaïkovski, lui aussi adorateur des scènes d'enfants de Schumann, il déclare un jour qu'il veut composer l'équivalent russe. Et c'est ainsi que naît son fameux album pour les enfants. Tenez, je vous propose d'en écouter « La poupée malade ». J'ai joué ça quand j'étais petit. C'est la première pièce d'une sorte de triptyque qui contient successivement « La poupée malade », « L'enterrement de la poupée » et enfin « La nouvelle poupée ». Bah oui, les enfants sont comme les adultes, ils sont tristes un moment quand ils perdent leur poupée, puis après ils oublient et ils font la fête à la nouvelle poupée. Mais pour l'instant, nous écoutons « La poupée malade » interprétée par la pianiste Brigitte Ungerer, comme toujours terriblement expressive dans le répertoire russe.
Thank you.
C'était La poupée malade, un extrait de l'album pour enfants de Tchaïkovski, interprété par Brigitte Ungerer. Toujours du côté des Russes et toujours interprété par Brigitte Ungerer, passons à Chostakovitch. Nous gagnons quelques années, mais il s'agit toujours d'une poupée. Oui, puisque le titre de la pièce, c'est « Valse de la poupée ». Une valse courte et délicate, une valse douce amère, une valse majeure-mineure avec des petites notes répétées en son centre et qui démontre une fois de plus l'incroyable don de Chostakovitch pour la musique légère. La valse de la poupée de Chostakovitch, interprétée par Brigitte Ungerer. Et mon troisième russe sera Dimitri Kabalevski, un contemporain de Chostakovitch, enfin un petit peu mieux vu par le régime soviétique que Chostakovitch. Alors le cas de Kabalevski est particulier, c'est un peu comme pour Anne Sylvestre. Ses œuvres pour enfants sont tellement connues qu'elles ont fini par faire de l'ombre à ses magnifiques préludes, qui à mon avis n'ont rien à envier à ceux de Chostakovitch, et à ses trois grandes sonates pour piano, qui n'ont elles rien à envier à celles de Prokofiev. Mais je reviens à ses pièces pour enfants. Son recueil le plus connu, c'est le recueil des 30 pièces pour enfants dont j'extrais l'histoire brève que je jouais avec tant de plaisir quand j'étais petit. Je suis sûr que parmi les auditeurs de France Inter, il y en a certains qui ont joué ou du moins déchiffré s'ils ont fait du piano cette pièce. Donc l'histoire brève de Dimitri Kabalevski sous les doigts du pianiste américain Stephen Bius. Thank you. Quelle jolie petite confidence pianistique, c'était l'histoire brève, un extrait des 30 pièces pour enfants de Kabalevski. Nous quittons maintenant la Russie pour faire un peu de technique. C'est vrai, nous parlons piano depuis le début de l'émission et nous n'avons pas encore fait nos exercices. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'adorais faire mes exercices. Les gammes, les arpèges, les tris, les tierces, tout ça me mettait en joie. Et si l'on parle d'exercices pour piano, forcément, on pense à Czerny. C'est un cas unique dans l'histoire de la musique, Czerny. Czerny, c'était un élève de Beethoven, dont il connaissait toute la musique par cœur. L'un des plus grands pianistes viennois de son temps. Seulement voilà, à l'âge de 27 ans, il se retire de la scène pour se consacrer exclusivement à ses élèves et à la composition. Il devient plus tard le professeur de Liszt qu'il fait travailler à partir de l'âge de 9 ans. En reconnaissance, Liszt lui dédiera ses célèbres études d'exécution transcendante. Alors je dirais que c'est un petit peu comme pour Kabalevski ou Anne Sylvestre, quand on écrit pour enfants, on finit par faire oublier ses œuvres pour adultes. Et dans le cas de Czerny, l'œuvre pour adultes est immense. Songez qu'il a écrit plus de 1000 œuvres, qu'il était principalement un compositeur de musique religieuse, avec 24 messes, 4 requiems et plus de 300 graduels et offertoires. Mais c'est pourtant, aujourd'hui, son œuvre pédagogique qui a résisté au passage du temps. Ça ne représente qu'un dixième de sa production, mais c'est ce que l'on continue à retenir de Czerny. Alors il y a tant de recueils de pièces et exercices pédagogiques que je ne sais pas très bien par lequel commencer. Peut-être l'art de délier les doigts, son recueil opus 740, s'il vous plaît. Prenons l'étude pour passer le pouce. Je l'aime particulièrement celle-là. À nous, les arpèges, c'est très important, le passage du pouce. On passe de nombreuses années à savoir déplacer la main de l'aigu vers le grave sans bouger le dos de celle-ci. Peut-être avez-vous eu un ou une professeur qui mettait une petite boîte d'allumettes sur le dos de votre main. Il ne fallait surtout pas la renverser. Un extrait de l'art de délier les doigts de Monsieur Czerny par le pianiste Jean-Frédéric Neuburger. Ça va peut-être vous sembler étonnant, mais je crois que je pourrais écouter du Czerny toute la journée tellement ses exercices pour piano me mettent de bonne humeur. Alors il n'y a pas que Czerny dans l'histoire des exercices pour piano, il y a aussi Monsieur Clementi. C'est que Clementi a composé un recueil intitulé « Gradus at Parnassum », c'est-à-dire littéralement l'escalier vers le Parnasse, vers le paradis. Alors dans ce « Gradus at Parnassum », il n'y a pas que des exercices, il y a même de très très belles compositions. Mais enfin, quand on parle du « Gradus at Parnassum » de Clementi, qui était, je vous le rappelle, un grand virtuose viennois, concurrent de Mozart. Mozart en a dit beaucoup de mal, mais c'était par pure jalousie. Donc quand on parle du « Gradus at Parnassum », on pense d'abord aux exercices digitaux. Et justement, Debussy s'est gentiment moqué de ce « Gradus at Parnassum » dans la première des pièces de son recueil « Children's Corner », le coin des enfants. Claude Debussy compose son « Children's Corner » en 1908, il a alors 46 ans, il le compose pour sa petite fille Chouchou. Et le premier morceau est intitulé « Docteur Gradus at Parnassum ». plaisir des doigts, jubilation de la vélocité, la difficulté de la pièce explique peut-être la dédicace de Claude Debussy inscrite sur le manuscrit. « À ma chère petite chouchou, avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre. » Il est vrai que sa fille, Claude Emma, dite chouchou, était alors âgée de seulement 3 ans. De Claude Debussy, nous écoutions Docteur Gradus ad Parnassum, c'est-à-dire la première pièce de son recueil Children's Corner, le coin des enfants. Et c'était interprété par le grand pianiste hongrois Zoltán Kocsis. Il y a de l'enfance dans tout Satie, c'est vrai. Mais j'en trouve encore un peu plus dans ses croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois. Oh, ce n'est pas son recueil le plus connu. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ça commence par une tyrolienne turque. Alors pourquoi turc ? Ben les plus attentifs des auditeurs de La Preuve par Z reconnaîtront peut-être des bribes du second thème de la marche turque de Mozart. Et puis après, vous écouterez La danse maigre, qui est d'un humour étrange et délicieux. Et enfin, pour conclure le recueil, Espagnania, qui est dédiée à la fille de Debussy que nous venons d'évoquer, la fameuse chouchou. Cette pièce, Espagnania, se moque gentiment de la vogue excessive aux yeux de Satie de l'Espagne chez les compositeurs français. La partition comporte d'ailleurs des indications de jeu particulièrement savoureuses. Quand on tourne les pages, on lit « Comme à Séville, sous les grenadiers, ce bon Rodriguez, les cigarières », ainsi qu'un petit voyage à Paris qui nous mène de la Puerta Mayo à la Plaza Clichy en passant par la rue de Madrid. La rue de Madrid, c'est-à-dire la rue où vient de s'installer le Conservatoire de Paris 2 ans plus tôt, en 1911, noble et académique établissement, alors dirigé d'une main de fer par Gabriel Fauré. C'est donc en 1913 qu'Éric Satie compose ses croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois, dont nous écoutons maintenant l'enregistrement effectué en 1986 par le grand Aldo Ciccolini. Thank you. Voilà, nous écoutions de la musique d'Eric Satie, successivement la Tyrolienne turque, la Danse maigre et Espagnagna, ces trois pièces formant le recueil intitulé « Croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois ». C'était interprété avec toute l'ironie nécessaire par Aldo Ciccolini. Alors ce qui est drôle, c'est que 20 ans plus tard, Francis Poulenc, à son tour, va publier un ensemble de pièces pour enfants. Il intitule ses pièces « Villageoises » et en sous-titre, il précise « Petites pièces enfantines ». Donc ce qui est drôle, c'est que ça commence aussi par une évocation du Tyrol. Le recueil d'Eric Satie commençait par une tyrolienne turque, et bien le recueil de Francis Poulenc commence par une valse tyrolienne. Nous écoutons ces délicieuses petites pièces, simples mais terriblement évocatrices, sous les doigts du pianiste français Pascal Roger. Maintenant, je voudrais parler du quatre mains. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore faire du quatre mains avec toujours la grande question, est-ce qu'on se met à gauche ou à droite du clavier? On dit que c'est Mozart qui a inventé le quatre mains pour jouer en compagnie de sa sœur Nannerl. Ça ne devait pas être facile à son époque, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un piano de l'époque de Mozart, mais les claviers étaient d'une étendue beaucoup plus restreinte que les claviers actuels. Alors côté enfance et côté quatre mains, nous pouvons commencer par un extrait du Dolly de Gabriel Fauré. Dolly, c'est un recueil de pièces pour piano à quatre mains que Fauré écrit en 1896. Il y a dedans une merveille intitulée « Miaou, miaou », une pièce évoquant les chats. La pièce d'enfance par excellence, les enfants adorent les chats. Alors le chat de Fauré n'est pas tout à fait comme celui de Pierre et le loup de Prokofiev. Il ne fait pas patte de velours. Il joue avec sa pelote, mordit, bondit, esquive, espiègle et câlin tout à la fois. Un délicieux scherzo valse, à peine interrompu vers la fin par la douceur inattendue du thème de Dodo l'enfant d'eau. Thank you. C'était Miaou de Gabriel Fauré, mais non, je ne plaisante pas, il y a bien une pièce signée Gabriel Fauré qui est intitulée Miaou. C'est la seconde pièce de son recueil Dolly pour piano à quatre mains et c'était interprété par Éric Lesage et Alexandre Tarot. Alors le piano à quatre mains, ça se pratique souvent en famille ou en couple ou encore entre père et fils. Tenez, c'est ce qu'a fait Igor Stravinsky en 1915, le grand compositeur russe, compose des pièces faciles pour piano à quatre mains à l'attention de son fils Solima, qui n'a que 5 ans. Il divise ses pièces en deux recueils, le recueil des 5 pièces faciles, et là Solima doit se placer à droite du clavier, du côté des aigus, et le recueil des 3 pièces faciles, et là Solima doit se placer à gauche du clavier, du côté des basses. Et quand je dis pièces faciles, vraiment, je vous assure, il suffit d'avoir fait 2 ou 3 semaines de piano et on peut parfaitement s'en tirer dans ce qu'a écrit Stravinsky pour son fils Solima. Ce qui est drôle, c'est que finalement ça a marché, puisque le petit Solima est devenu plus tard lui-même compositeur. Nous écoutons donc maintenant les 3 pièces faciles pour piano à quatre mains d'Igor Stravinsky, successivement marche, valse et polka. Thank you. Trois pièces faciles d'Igor Stravinsky pour piano à quatre mains, successivement marche, valse et polka. Ah, j'ai oublié de vous dire que c'était interprété par le célèbre duo de piano Arthur Gold et Robert Fitzdale. Arthur Gold et Robert Fitzdale, c'est un duo de piano américain qui a révolutionné l'art du duo de piano. Un duo à la ville comme à la scène pour lequel Poulenc a beaucoup écrit. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce que nous venons d'entendre comme musique était assez répétitif, assez mécanique, un petit peu comme une boîte à musique. Il faut dire que Stravinsky adorait les orgues de barbarie, les automates, les boîtes à musique. Et vous le savez, je ne suis pas insensible moi-même, vous vous en doutez bien, à la poésie des boîtes à musique. Et du coup, je vous en propose une signée Anatoly Liadov. Liadov, compositeur russe, l'un des chouchous de la preuve par Z. Alors, il a composé beaucoup de pièces magnifiques pour piano et c'est un peu injuste, mais sa pièce la plus jouée aujourd'hui dans le monde, c'est sa tabatière à musique. Ah oui, tabatière à musique, mais en fait, c'est une boîte à musique. Hein. Vous voyez, à l'époque, on prisait le tabac, donc quand on ouvrait la tabatière, ça déclenchait un petit mécanisme de boîte à musique. La tabatière à musique de Liadov est une petite valse badinage charmante, une pièce imitant dans l'aigu la poésie paradoxale des boîtes à musique. C'était la tabatière à musique d'Anatoly Liadov, une valse badinage interprétée au piano par Brigitte Ungerer. Et puisque nous sommes du côté des boîtes à musique, écoutons les boîtes à musique des frères Jacques. Les boîtes à musique sont des mécaniques, un peu fantastiques, magiques et mystiques.
De Francis Blanche, Marc Cab, Pierre-Philippe et Guy Lafarge, un air extrait de l'opérette La Belle Arabelle, l'air des boîtes à musique.
Sont des mécaniques un peu fantastiques, magiques et mystiques, tantôt poétiques, tantôt sarcastiques, avec un rien d'ingénu. Elles sont des musiques caractéristiques, des airs ironiques, aristocratiques, qui vous communiquent les mois romantiques, parfums des ans révolus.
lancer, marquise. La marquise lancée, la gavotte exquise du temps passé.
D'abord la danse, puis la romance, et l'insouciance, la défaillance. Voici que s'ouvrent les bras de faïence sur les dentelles d'Italie. Les boucles blondes, les tailles rondes qui se confondent sous les rotondes. On se retrouve dans un autre monde parmi les brunes de l'oubli.
Rubans et cravates, bottons et carlates, charmants diplomates, bretteurs et pirates, dames délicates, beauté que l'on flatte dans les bosquets de Marly.
Mais ces acrobates, ces aristocrates n'ont pas d'homme plate, de cœur ni de rate, car les automates ne sont que des boîte, des roues, des fils, des poulies.
Freine mécanique qu'il faut remonter, la boîte à musique va s'arrêter. Les boîtes à musique sont les mécaniques un peu fantastiques, magique et mystique, mais les automates ne sont que des boîtes, des roues, des fils, des...
Nous écoutions un enregistrement de concert des boîtes à musique des frères Jacques, accompagné au piano par Pierre-Philippe, un extrait de l'opérette La Belle Arabelle. Et à propos de boîtes à musique, en guise d'improvisation de la semaine, je vous ai apporté un petit souvenir d'un concert que j'ai donné au Festival Toulouse l'été en compagnie du pianiste de jazz Antoine Hervé. Comme vous allez pouvoir le constater, celui-ci m'a fait la surprise au moment du bis de me faire entendre et de faire entendre au public une charmante rengaine en la sous forme d'un carton perforé qu'il actionnait grâce à une petite manivelle. Les applaudissements du public nous ont convaincus d'enchaîner et c'est ce jour-là que j'ai compris que le piano était décidément la plus riche et la plus infinie de toutes les boîtes à musique.
Thank you.
C'était l'improvisation de la semaine en forme de boîte à musique à deux pianos en compagnie d'Antoine Hervé. Et comme le disait 4 siècles avant Jésus-Christ le grand Mincius, le premier disciple de Confucius, grand est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Segre. À la technique, Pascal Bénard et Romain Lenoir. La semaine prochaine.